dans la Bible, on trouve ce que les exégètes allemands ont pointé comme, je vous passe l'allemand, l'autoprésentation de Dieu. C'est quand Dieu dit « C'est moi le Dieu de tendresse, d'amour, de vie ». Bon, alors, je me risque à l'exercice sans être le bon Dieu, je vais m'auto-présenter. Mais en fait, je vais m'auto-pas présenter, je vais plutôt présenter la conférence en disant que c'est la dernière de notre cycle des conférences de carême sur le bonheur, le paradis. Vous aurez vu qu'à chaque fois, pour les quatre précédentes, nous sommes un peu déportés, et c'était très heureux, sur la joie, ou sur d'autres thèmes. Après un parcours sur les psaumes, un parcours dans le Nouveau Testament, un parcours avec notre archevêque sur la vie chrétienne, et puis les derniers mots que nous avons eus en philosophie avec le bonheur chez les philosophes, je vous propose maintenant d'aborder un point précis, c'est celui de la résurrection de la chair. Comme à chaque fois, ces conférences regroupent tout le doyenné, je remercie encore une dernière fois les paroissiens de la paroisse Sainte-Anne qui à chaque fois chauffe l'église et la prépare, qui vous accueille. Cette conférence est gratuite. Tous les intervenants ont gentiment prévu de ne pas être défrayés. Alors simplement, les petits paniers qu'on fera passer à la fin sont pour soutenir les projets très concrets des servants d'hôtel pour notre doyenné. Donc un grand merci par avance pour votre générosité. Nous allons pouvoir commencer maintenant. On réservera un petit temps pour les questions. Et puis ensuite, nous pourrons célébrer la messe pour ceux et celles qui le souhaitent. Je dis un petit temps pour les questions, je ne dis pas un petit temps pour les réponses. Parce que je vais faire ce que je peux seulement. Voilà. Avant de commencer l'introduction, qui sera volontairement un peu longue, je fais une petite remarque toute bête, c'est que je suis encore ni mort, ni ressuscité. Cela veut dire que, et je viens aussi d'une autre manière de le signifier, je n'ai pas d'expérience, mais vous non plus, c'est sûr, personnelle, de la résurrection de la chair. Cependant, grâce à l'enseignement constant de l'Église sur ce point important de notre credo, il est possible d'en parler et de dire plusieurs choses. En introduction, j'aimerais partir sur deux pistes. Tout d'abord, justement, le credo, et ensuite, d'une manière beaucoup plus rapide, j'aimerais m'arrêter sur une définition assez simple de ce que pourrait être, selon l'Église, la chair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et après cette introduction, je déploierai trois points, mais j'y reviendrai. Tous les dimanches, jours de fête, à la messe, nous disons « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. » C'est le point culminant du credo, c'est son sommet, en tout cas son aboutissement. C'est aussi cette résurrection de la chair et la vie éternelle, le point culminant de notre vie. Dans le credo comme dans la vie, la résurrection de la chair et la vie éternelle arrive à la fin. Mais ce credo, ce symbole des apôtres, n'est pas le premier des credos de l'Église, peut-être le savez-vous, ni même le seul, bien évidemment. Alors, je vous propose de nous assurer que cette assertion de la résurrection de la chair est bien professée ailleurs et avant déjà par les autres chrétiens. Alors, je me suis baladé dans un ouvrage qui recueille l'ensemble des professions de foi, et j'ai pu découvrir que déjà Hippolyte de Rome, en vers 215, avec peut-être un texte qui a une racine antérieure, on va faire de temps en temps un petit peu de patois, enfin un peu de latin, je traduirai à chaque fois, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Crederis in spiritu sancto et sanctam ecclesiam et carnis resurrectionem. Il pose une question, il dit « Croyez-vous, crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église et à la résurrection de la chair ?» Donc, à Rome, déjà, vers 215, la résurrection de la chair fait partie du credo. Je me suis baladé, mais je vous épargne toutes les références, parce qu'en fait, comme c'est constant, on retrouve le fait de professer la foi en la résurrection de la chair partout et tout le temps. Mais j'ai repéré des credos en Asie mineure, à Rome comme celui-ci, à Milan, en Éthiopie, à Tolède. Et dès le IIIe siècle, la résurrection de la chair est vraiment tout le temps précisé dans le credo. Je fais deux petites remarques sur ces credos. C'est une découverte que j'ai faite en travaillant. Dans un livre qu'on appelle le Liber Ordinum Mozarabicus, ne vous affolez pas, ne retenez pas le nom, n'essayez peut-être même pas de le noter, c'est un livre de liturgie, un livre de liturgie qui contient un credo, c'est un livre wisigoth. C'est les Wisigoths, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire géo, c'est le peuple qui était en Espagne, ben, en l'occurrence là au 7e siècle. Et dans ce livre, on trouve ceci que j'ai trouvé remarquable, parce que ça diffère un petit peu de l'expression « résurrection de la chair ». Je vous lis en latin d'abord. Bon, « Remissionem omnium peccatorum, carnis huius resurrectionem et vitam aeternam ». Ici, la petite différence, c'est « nous croyons en la résurrection de cette chair et en la vie éternelle ». Il y a l'introduction de « huius » qui est le démonstratif. « Nous croyons en la résurrection de cette chair ». C'est une insistance sur quelque chose de concret, me semble-t-il. Il n'y a pas de commentaire à ce credo, mais voilà, on sent qu'ici, on a voulu insister. Ce n'est pas tout à fait étonnant, mais je ne déploierai pas, parce que le contexte mozarabe du 7e siècle est rempli d'hérésies, et donc on voulait peut-être justement affirmer que la résurrection de la chair, c'est bien en cette chair-là. J'ai aussi repéré, mais ça c'est plus anecdotique et local, j'ai retrouvé le Missale Vesontiniense. Ça veut dire le Missale byzantin, pas byzantin mais byzantin, donc de Besançon, 7e siècle, on a des vieux documents à Besançon. Et donc là on trouve « Credo in carnis resurrectionem », je crois la résurrection de la chair. Bonne nouvelle donc pour vos arrière-arrière-arrière-grands-pères, ils disaient déjà la foi comme nous, à Besançon. Donc on trouve, dès les premiers siècles et jusqu'à nos jours, une constante, tous les credos, il y a quasiment pas d'exemple contraire, qui part de la résurrection de la chair. Bon, il y en a quand même un, enfin au moins un, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Ben oui, dans le grand credo, vous savez comment on finit, non ? Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Là, on parle de résurrection des morts, mais pas au sens strict de résurrection de la chair. Voilà. Je suis toujours dans mon introduction pour parler des credos, c'est-à-dire de la manière dont l'Église a voulu parler de la résurrection de la chair dans ce cadre spécifique, dans ce genre littéraire du credo, qui sont des résumés de foi. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant à la toute fin du 7e siècle. C'était le 16e concile de Tolède. Je vous lis. Enfin bref, c'est un concile, voilà. De même que, par sa résurrection, le Christ nous a donné un exemple, et que, nous vivifiant, après 2 jours, il est ressuscité le 3e jour, vivant d'entre les morts, et c'est là ce qui m'intéresse. De même, nous voulons croire, de toutes les façons, que nous aussi nous ressusciterons à la fin des temps, non pas sous forme d'une ombre aérienne ou en celle d'une vision imaginaire, mais dans la substance de la chair véritable dans laquelle nous nous trouvons et vivons à présent. C'est un credo, mais drôlement développé, sur la résurrection de la chair. Donc, je reprends quelques termes. Hein. Nous croyons que de toutes les façons nous ressusciterons, non pas sous la forme d'une ombre aérienne ou d'une vision imaginaire, mais bien dans la substance de la chair véritable dans laquelle nous nous trouvons et vivons à présent. C'est très instructif pour nous ce soir, parce que cela signifie que déjà au 7e siècle, l'Église a compris la résurrection de la chair comme quelque chose de très concret, de matériel. Ce n'est pas simplement un fantôme dans les nuages qui se baladerait, cette chair. C'est bien cette chair dans laquelle nous nous trouvons et vivons à présent. Alors j'anticipe terriblement sur mon dernier point, voire ma conclusion. Si cette chair qui ressuscite, c'est celle dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle nous vivons maintenant, ça aura de grandes conséquences sur notre vie terrestre, ou plutôt notre vie terrestre, notre corps aura sa place au ciel, et donc ce que nous faisons de notre corps aura des conséquences sur notre vie céleste. Bref, j'aurais pu passer deux heures avec vous à lire ces credos, leurs petites distinctions, mais je vais m'arrêter là. J'aimerais simplement citer Tertullien, qui a écrit un livre. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez faire ça. Tertullien, c'est un père de l'Église. Vous pouvez vous le procurer. C'est dans la collection des sources chrétiennes. Tertullien, c'est début du 3e siècle. En 212, je crois, il écrit « La résurrection de la chair ». C'est très intéressant. Et il écrit ceci. C'est tout au début. Hein. « Une conviction des chrétiens, deux points, la résurrection des morts. » Cette croyance nous fait vivre. Voilà. Tertullien dit, voilà, une conviction chrétienne, c'est la résurrection des morts. Et non seulement c'est une conviction, mais cette foi nous fait vivre. Voilà. C'est la fin de ma première partie de l'introduction sur les credos. Maintenant j'attaque, mais ce sera beaucoup plus rapide, la deuxième partie. Qu'on ne se trompe pas, en fait, qu'on n'aille pas plus loin dans l'exposé avec une mauvaise compréhension. En fait, de quoi parle-t-on quand on parle du terme « chair » ? Le terme « chair » désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. Ça, c'est plutôt biblique. La chair, quand on parle de chair dans la Bible, c'est pour rappeler que l'homme, eh bien, il est faible, qu'il est mortel. Je vous cite simplement un passage du livre du prophète Isaïe, nous sommes au chapitre 40 et au verset 6-7. « Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. » Donc on compare la chair à l'herbe. Et Isaïe continue « L'herbe se dessèche et la fleur se fane. » Donc les références bibliques à la chair nous rappellent constamment que la chair de l'homme, elle est comme l'herbe, comme la fleur, elle est promise à la sécheresse et au fait qu'elle fane. Voilà. On vit 100 ans ici-bas, au mieux, bah, guère plus. Voilà. On est donc éphémère sur cette terre. Donc, plus précisément, on va retenir ce soir, et même à plus long terme, que la chair telle que le christianisme la conçoit, c'est la personne tout entière. Corps, âme, esprit. Hein? Le terme chair désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité, mais aussi signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, mais que même nos corps mortels reprendront vie. Hein? La mort, pour un chrétien, c'est pas grand-chose. C'est la séparation du corps et de l'âme. C'est tout. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que la mort ? C'est quand l'âme se sépare du corps. Eh bien, quand on parle de résurrection de la chair, on dit que non seulement cette âme immortelle, elle demeure, mais que le corps lui-même, c'est-à-dire l'homme dans sa totalité, corps, âme, esprit, est lui aussi promis à la résurrection. La résurrection signifie donc cela. Et pour reprendre l'image de l'herbe, en Isaïe, toujours, un peu plus loin, au chapitre 66, verset 14, voilà ce que dit le prophète. « Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdit. » On est avant la résurrection du Christ, hein, c'est un prophète, et il annonce déjà la résurrection de la chair. « Vos os revivront comme l'herbe reverdit. » C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter au fait que de la même manière qu'une fleur fane, que l'herbe sèche et que l'homme meurt, on ne s'arrêtera pas à cela. On se rappelle que de la même manière que l'herbe reverdit chaque année au printemps, on le constate en ce moment, eh bien, nos os revivront. Et ce n'est pas une image poétique. Voilà, j'ai fini ma conférence. Enfin, j'ai fini mon introduction, mais j'ai aussi fini ma conférence. C'est-à-dire que j'ai essayé d'expliquer au mieux ce que l'Église enseignait et croyait sur la résurrection de la chair. C'est-à-dire que nous croyons en la résurrection de la chair, c'est-à-dire nous croyons qu'après notre mort, eh bien, nous ressusciterons, que l'âme immortelle est au ciel et qu'à la résurrection générale, à la fin des temps, nous retrouvons notre corps et voilà, tout va bien. Bon, j'ai peur, d'une part, de ne pas attirer vos bonnes attentions parce que faire qu'un quart d'heure alors qu'on vous a vendu trois quarts d'heure, vous n'allez peut-être pas apprécier. Et puis surtout, en fait, ça, je pense qu'on ne peut absolument pas s'arrêter là parce qu'il y a des questions. Alors je vais essayer d'en aborder quelques-unes dans la suite. En fait, d'emblée, l'idée qu'après la mort corporelle, l'âme de la personne continue à vivre, ça va. Enfin, ça va ou ça va pas. Mais généralement, on arrive à l'imaginer. La communion des saints, ceux et celles qu'on a aimés et connus, voilà, on espère fermement qu'ils sont au ciel. Voilà, bon. Pour un chrétien, il me semble pas encore trop compliqué. En revanche, croire en la résurrection d'un corps, il me semble que c'est déjà plus difficile. Mais il n'y a pas qu'à moi que cela semble. Dès le début, la foi chrétienne en la résurrection de la chair a rencontré des incompréhensions et même des oppositions. Saint Augustin, ça ne date pas de la semaine dernière, hein. Voilà ce que dit saint Augustin. Sur aucun point, la foi chrétienne ne rencontre plus de contradictions que sur la résurrection de la chair. C'est dire que nos questions de ce soir ne sont pas nouvelles et presque elles sont-elles légitimes, aimerais-je dire, hein. Saint Augustin, d'emblée, il dit, mais ce qui fait le plus blocage, enfin je paraphrase, ce qui est difficile à comprendre, c'est la résurrection de la chair. C'est ça sur quoi on bloque, dit saint Augustin. Il est quand même communément accepté qu'après la mort, la vie de la personne humaine continue de façon spirituelle. Ça va. Mais comment croire que ce corps, si manifestement mortel, puisse ressusciter à la vie éternelle? Eh bien, cette question, on ne va pas faire un sondage ce soir, mais quelqu'un l'a fait, ce sondage, en 2007. Alors, 2007, ça commence à dater, hein. Ça fait 17 ans. Je pense que les chiffres sont encore plus nets. C'est un sondage CSA pour le monde des religions, un truc très sérieux, hein. Eh bien, ce sondage de 2007 révélait que seul 58% des personnes se déclarant catholiques, on n'est que chez les catholiques là, 58% des personnes se déclarant catholiques croient en la résurrection du Christ. 2007. Bon, je ne sais pas qui se déclare catholique. Moi, vous aussi j'espère. Peut-être des personnes se déclarent catholiques parce qu'elles ont reçu le baptême, mais n'ont peut-être pas la foi. En tout cas, je répète, 58% des personnes qui se déclarent catholiques croient en la résurrection du Christ. Pour moi, c'est un paradoxe spirituel et intellectuel redoutable. Je ne sais pas comment font les 42% qui n'y croient pas. Mais accrochez-vous. Sur toujours ces catholiques, 10% croient en la résurrection des morts. 10% des personnes se déclarant catholiques croient en la résurrection des morts. Des morts. Alors combien encore croient en la résurrection de la chair telle que l'Église l'enseigne? Parce que ça va encore plus loin, la résurrection de la chair. C'est pas seulement la résurrection des morts, hein, ça va plus loin, c'est aussi le corps. Voilà, le sondage n'a pas posé la question, moi je l'aurais posé. Mais on va tomber à quelques pourcents. Voilà. C'est un sondage français, hein. Important, je ne l'ai pas dit, hein. C'est des catholiques, mais français. Bref, donc, je me suis dit, bien avant de penser aux conférences de carême, que ce serait important qu'une fois en paroisse, en doyenné, en diocèse, on aborde cette question de la résurrection de la chair avec un peu plus de temps qu'on en a dans les homélies. Voilà pourquoi, moi, j'avais à cœur d'aborder cette question. Ah, maintenant, je suis chargé de Sainte Bernadette, elle dit, moi je suis chargé de vous le dire, pas de vous faire croire. Moi je suis chargé de vous le dire et de vous faire croire. Enfin, je vais essayer. Mais peut-être déjà, vous êtes acquis et plus que moi à la cause de la foi, la résurrection de la chair. Mais pour essayer d'adhérer à une vérité de foi, qui est dogmatique, hein, il n'y a pas à douter, il faut essayer de bien comprendre les choses. Si on comprend mieux, eh bien on adhérera mieux. Parce que parfois, il y a des incompréhensions, des choses qui nous paraissent surprenantes, mais qui peuvent être dissipées, en fait, parce qu'on n'avait pas compris tel ou tel point. Alors, maintenant, je vais développer mon plan en 3 points, assez inégaux en leur longueur. On va faire un petit tour dans la parole de Dieu. C'est inévitable, mais c'est très heureux. Les textes que j'ai choisis, ce sont seulement quelques textes de la Bible, ne sont pas là pour démontrer quoi que ce soit. Le but, ce n'est pas de vous prouver que la chair ressuscitera. Le but, c'est de comprendre comment l'Église a pu l'affirmer, cette résurrection de la chair. C'est comment l'Église, avec tous ses credos, s'est appuyée sur la résurrection, sur la Bible, pour professer, enseigner la résurrection de la chair. Ça, c'est le premier temps, c'est les Écritures. Le deuxième temps, c'est celui-là qui m'intéressait le plus. Or, c'est mais comment ça marche ? Concrètement, à quoi ça ressemble, cette affaire-là ? Alors là, je vous le dis tout de suite, vous pourriez être un peu déçu. Voilà. Voilà, on va voir ça. Et le troisième point, alors celui-là, il est intéressant, surtout dans le cadre d'une conférence de carême, c'est bah, très bien tout ça, on est beaucoup plus intelligent depuis une heure, enfin trois quarts d'heure, mais qu'est-ce que ça va changer dans notre vie ? Parce que j'aime pas trop faire des conférences ou des homélies sans que finalement ça change quelque chose dans notre vie. Le but, c'est quand même notre conversion, on est en temps de carême. Donc j'ai pointé quelques implications concrètes qui sont, me semble-t-il, très liées à la foi en la résurrection de la chair. Dit autrement, si on croit en la résurrection de la chair, alors, voilà, ça sera le troisième point. Vous êtes prêts ? On y va. Je vois que personne ne dort, c'est déjà pas mal. Vous allez voir que ce que je vais vous dire, ce n'est pas trop difficile à comprendre intellectuellement, mais ça peut, parfois, pour quelques-uns, être difficile à adhérer avec le cœur. Le texte que j'avais en tête avant mes premières recherches, et c'est celui-là que j'ai conservé, c'est le chapitre 24 de Luc, c'est le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Luc, avec le récit d'Emmaüs. Et puis, il n'y a pas que cela dans ce chapitre, il y a aussi l'apparition de Jésus aux 12. Je vous lis les versets 36 à 43 de ce chapitre 24 de saint Luc. Comme les disciples en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et de crainte, il croyait voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Je ne l'ai pas précisé, mais vous l'aviez repéré, hein, nous sommes après la résurrection du Christ. Hein, c'est une des nombreuses apparitions du Christ après sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce qu'on a entendu dans ce texte de Luc ? Que ce que voient les disciples les remplit de frayeur et de crainte, car, nous dit saint Luc, ils croyaient voir un esprit. Donc, le Christ ressuscité passe pour être un esprit. C'est très intéressant, parce que ça veut dire que ce n'est pas exactement celui qu'ils avaient connu. Ou alors, en tout cas, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Après, comme ils se disent, il est mort, comment il peut être là ? Enfin bref, mais on retiendra, on n'est pas dans leur tête, qu'a priori, le Christ ressuscité, pour certains, dans un certain contexte, donne à croire qu'on voit un esprit. Et Jésus s'en rend compte, puisqu'il dit, mais pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et d'emblée, que fait-il ? Voyez mes mains et mes pieds. Pourquoi ? Parce que ce sont ses mains et ses pieds qui ont recueilli les stigmates, c'est-à-dire les marques de la croix. C'est pas bien de parler comme ça, mais en quelque sorte, les marques des clous sont comme la carte d'identité de Jésus. C'est pas satisfaisant de dire ça, mais c'est pour qu'on comprenne bien. C'est en tout cas un signe de reconnaissance. Hein. Ce qui est très beau spirituellement, c'est-à-dire que c'est les signes de souffrance et de mort qui deviennent les signes de reconnaissance du Christ ressuscité. Hein. Bon. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Et Jésus invite à ce qu'on le touche. Touchez-moi. S'il dit ça, c'est donc qu'il est touchable. Et ça infirme l'idée que Jésus était un esprit, puisqu'on peut le toucher. Et Jésus connaît bien ses apôtres, puisqu'ils ont toujours un peu du mal. Il leur dit, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. Le Christ ressuscité, ce n'est pas l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, ni son propre hologramme. Hein. C'est-à-dire que c'est bien quelqu'un qui est présent en chair et en os, pour reprendre les termes mêmes du Christ. J'insiste très lourdement, hein, mais il ne faut pas qu'on quitte ça de notre tête. Dans la joie, ils n'osaient pas y croire encore. Alors ça, c'est drôlement rassurant pour nous, je trouve, parce qu'ils sont dans la joie de voir le Christ ressuscité, mais ils n'osent pas y croire. Parce que aussi, il y a une forme de paradoxe, parce qu'ils sont dans la joie, c'est quand même qu'ils croient un peu, mais ils n'osent pas y croire, ils n'ont pas l'audace de la foi. Mais c'est tellement grand, tellement impressionnant, cette résurrection du Christ, qu'ils n'osent pas y croire. C'est peut-être aussi une tournure littéraire de Saint-Luc, on ne va peut-être pas trop s'attacher au mot. Mais le mieux du mieux du mieux, c'est pour ça que je voulais citer ce texte, j'irai plus rapidement après sur les autres textes. Hein. Que fait Jésus ? On verra pourquoi après. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Il lui donne du poisson grillé qu'il mangea devant eux. Un esprit, un fantôme, n'a pas de tube digestif. Donc, Jésus ressuscité, il est capable de manger. Alors, on ne va pas trop s'intéresser à la question de la biologie, de la physiologie et puis du tube digestif. Ce qui est intéressant, c'est que le Christ ressuscité peut partager un repas. Voilà. Je ne sais pas comment ça fonctionne la digestion de quelqu'un qui est ressuscité, mais en tout cas, on retiendra ça, c'est sans doute ça le plus important, qu'il y a celui qui est le Christ ressuscité peut partager un repas avec ses apôtres comme il l'a fait maintes fois, notamment à la scène. Voilà. Jean, chapitre 20. Nous sommes toujours dans le contexte des apparitions de Jésus après sa résurrection. On connaît par cœur, hein, c'est Thomas. Thomas qui rate la première visite, si l'on peut dire, et 8 jours après, il est présent quand le Christ ressuscité, à nouveau, se présente aux apôtres. Jean 20, versets 26-28. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit... La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Là, on a encore quelque chose d'étonnant. On retrouve Ça nous étonne moins. Le fait que Jésus, un peu pour livrer une preuve à ses apôtres, dit à Thomas, avance ton doigt ici. Et il montre à nouveau ses mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. C'est la cinquième plaie. Pour dire, voilà, si il est touchable, avance ta main. Voilà, le Caravage représente, si j'avais diffusé des images que j'avais imaginées, finalement, ce n'était pas forcément utile, vous aurez diffusé la représentation du tableau du Caravage, où on voit Thomas qui met vraiment la main dans le côté. Hein. C'est assez impressionnant. On ne dit pas que Thomas l'a fait, hein, d'ailleurs, dans ce passage. Mais peu importe. Donc là encore, pour montrer que le Christ est ressuscité, il monte ses mains et il demande à être touché. Mais ce qui est plus surprenant, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas non plus le Jésus d'avant sa mort, puisque Jean a bien précisé juste avant, Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Donc à la fois, il est bien matériellement présent, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du corps, du matériel, mais à la fois, les portes verrouillées n'empêchent pas à ce corps d'entrer en relation avec les apôtres. Donc, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Je m'en tiens au texte, mais je ne voudrais pas tirer trop le texte et faire dire trop de choses au texte. Hein. Vous pouvez y réfléchir avec moi. Nous continuons. Vous allez me dire, eh ben, très bien, la résurrection de la chair, ça marche si on a la foi en les Écritures pour le Christ. Mais ce n'est pas nous. Ben oui, on pourrait dire, oui, mais le Christ, c'est le Christ. Donc forcément, il est particulier, et c'est vrai. Il est vrai homme, il est vrai Dieu. Eh bien, c'est saint Paul qui va nous répondre. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 8 et au verset 11, Romains 8, 11, on entend ceci. Saint Paul répond directement à la question. Hein. Si l'Esprit, c'est l'Esprit Saint, hein, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ, donc cet Esprit, hein, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Je répète. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Fils qui habite en vous. On n'est pas du tout dans un style littéraire, poétique. Hein. C'est une affirmation de foi pour saint Paul. Enfin, il faudrait lire tout le contexte, hein, notamment le beau chapitre 8 de la lettre aux Romains. Mais on retient que, puisqu'il y a résurrection du Christ, dans la tête de Paul, ben c'est que forcément, il y a résurrection des morts, résurrection des corps mortels, parce que c'est le même Esprit qui agit. De la même manière que l'Esprit Saint a relevé Jésus d'entre les morts, puisque nous sommes habités de l'Esprit Saint, alors ce même Esprit donnera vie à nos corps mortels. Ça va ? Encore une fois, moi, je ne veux pas prouver des choses en citant ces versets bibliques. Hein. Je dis plutôt, c'est le chemin inverse, comment l'Église a pu s'appuyer sur la Bible pour professer la foi en la résurrection de la chair. Il y a une concordance dans toute la Bible sur cette foi en la résurrection de la chair, et c'est pour ça que l'Église a pu concrètement l'affirmer. J'en arrive maintenant au point suivant. Finalement, comment ça marche ? Bon, c'est pas Jamie et puis c'est pas sorcier là. Mais on va essayer de comprendre comment ça marche la résurrection de la chair, parce que là on reste plutôt dans la théorie. On va admettre que maintenant on y croit. Bon, mais en vrai ça donne quoi ? Bon, mais c'est là que vous risquez d'être déçu. Mais c'est autant saint Paul que moi qui va vous décevoir, parce que je vais déjà laisser parler saint Paul. Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, qui est bien, la lettre aux Corinthiens, elle est bien de sa main, elle est bien de saint Paul. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, au verset 35. C'est formidable, parce qu'en fait, cette conférence, c'est même pas moi qui l'a fait. Écoutez ce que dit saint Paul, il se pose la question. Mais quelqu'un pourrait dire, comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de corps revivent-ils ? Même reviennent-ils ? Voilà la question, dit Paul. C'est la mienne. J'ai essayé de la faire vôtre aussi, cette question, mais c'est ça qui m'intéresse là. Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils ? Super, on attend les versets. Ouvrez les oreilles. Il répond, si quelqu'un demandait ça, voilà ce que dit Paul, ben, réfléchis donc. C'est ce qu'il dit. Ouais. « Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé par exemple ou autre chose. et Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu, à chaque semence un corps particulier. Donc, d'abord, saint Paul dit que ce qu'on sème, mais dans les champs, hein, doit d'abord mourir. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est pas prévu. Hein. Le grain de blé, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Voilà. Bon, ça, tout agriculteur sensé, tout habitant de notre doyenné, sait qu'une graine, il faut qu'elle soit déposée en terre, qu'elle meure. Et puis après, saint Paul continue quand il dit, mais réfléchis donc. Il dit, ce que tu as semé, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser. C'est une simple graine. On n'enterre pas un épi de blé pour donner du blé. On enterre une graine. Et quand on compare une graine et un épi de blé, ça ne fait pas du tout le même effet. Et bien voilà l'image que saint Paul nous offre pour essayer de comprendre la résurrection. La graine, c'est nous, ici-bas, sur terre. Et ce que nous serons dans le ciel, à la résurrection de la chair, ce sera le blé. Donc, pour saint Paul, il y a autant de différence entre une graine de blé qui doit mourir, un grain de blé qui doit mourir et un épi de blé, que entre ce que nous sommes ici-bas et ce que nous serons dans le ciel. Là, on est quand même plutôt, c'est plus poétique que la lettre aux Romains, quelque chose de poésie, de la poésie, hein, qui relève de la métaphore, de la comparaison. Cela veut dire qu'en fait, réfléchis donc. Il nous dit, réfléchis donc. En fait, il répond, mais comment ça marche? Il dit juste que y a une différence quand même. Mais il continue un petit peu plus loin, au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable, donc nos corps, hein, ressuscite impérissable. Là, il nous donne des renseignements, en fait. Ça, c'est nouveau. Le corps ressuscité est donc impérissable. Une fois qu'on est ressuscité, c'est bon, il n'y a plus de dégradation du corps. Il ne périra pas, il n'y a pas de deuxième mort. Il continue. Ce qui est semé sans honneur, enfin, moi je mettrais sauf les honneurs terrestres, mais du coup, ça ne vaut rien. Hein. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ça, c'est nouveau. Deuxième information, le corps ressuscité, il est glorieux. Il partage la gloire de Dieu. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Voilà, nos corps ressuscités, notre chair ressuscitée sera puissante à côté de la faiblesse humaine. Vous savez, cette herbe qui fane parce qu'elle est faible. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Là encore, une information capitale. Saint Paul nous explique que s'il y a la résurrection de la chair, c'est-à-dire de l'homme tout entier, donc de son corps, c'est pas tant le corps physique qui est mis en avant ici, mais ce qu'il appelle le corps spirituel. Ce qui peut paraître un peu étonnant de parler d'un corps spirituel. Hein, c'est l'expression paulinienne. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Alors ça c'est très bien, parce que si vous n'aviez pas compris, il nous le dit en passant, il y a aussi un corps spirituel. Donc, si on regarde de près le texte, quand nous nous retrouverons, on pourra refaire on se retrouvera là-haut, là. Nous tous, ce serait sympa, non? Tous ceux qui étaient là ce soir, on fait ça? Non, mais en vrai, hein, on va le faire, j'y avais pas pensé. Quand on se retrouvera tous là-haut, puis ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent venir aussi, hein, on comprendra que notre corps, eh bien, il ne sera plus lié à la faiblesse. Moi, je comprends que vous n'aurez plus d'arthrose. Mais si, il sera impérissable. C'est-à-dire qu'on sera dans une espèce, pas une espèce, on sera dans une éternelle jeunesse. Mais ne me demandez pas plus, j'en sais rien, j'y suis pas encore allé. Hein. Voilà. Il sera rempli d'honneur et de gloire. Moi, je vois quelque chose de lumineux, d'une dignité supérieure à la dignité terrestre et égale, une forme d'égalité, on peut espérer. Et puis, eh bien, ce corps physique, eh bien, ressuscite en corps spirituel. Et là, saint Paul, il s'arrête là. il n'en dit pas plus, puis moi je ne vais pas en dire beaucoup plus non plus, à part que ben, il y a quelque chose qui nous fait penser au corps ressuscité du Christ, qui est pareil mais qui n'est pas pareil, quoi. Voilà, il est, on peut le toucher, mais il passe les portes, quoi. Il est bien là, mais il ressemble à un esprit. Voilà. On continue avec Paul. C'est plus bref. La lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Donc Philippiens 3, 20 et 21. Saint Paul nous rappelle, je cite, « Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. » Alors, je retiens que ces corps, parce que ça c'était pas dit jusque-là, nos pauvres corps, en fait, seront transformés par le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va transformer nos pauvres corps. C'est-à-dire que c'est pas automatique, c'est une grâce divine, c'est une action de Dieu. Ça, on n'avait pas dit jusque-là. Hein. On dit dans le credo, je crois, la résurrection de la chair, là, on dit que c'est Dieu. Bah, on s'en doute un peu. Hein. Mais bon, ça veut dire que c'est ni automatique, ni notre propre fait. Cette résurrection de la chair, elle est un don. Et donc, c'est le Christ lui-même qui transforme nos peaux, qui transformera nos pauvres corps à l'image du corps glorieux. C'est-à-dire que notre modèle, c'est le Christ. Donc on a bien fait lire les évangiles avant, parce qu'on sait maintenant qu'au ciel, on pourra manger. Enfin, au moins du poisson grillé. J'espère qu'il y aura d'autres choses. Mais... ben, on est au moins sûr de ça. Donc on sera capable de manger du poisson grillé. Ben, c'est pas trop si hein, d'acancoyote. Mais c'est des questions qu'on peut un peu se poser pour rigoler. Mais voilà. En tout cas, si l'image qui nous est donné, c'est à la résurrection, aux apparitions de Jésus, c'est notre modèle, c'est l'image du corps glorieux, c'est celui du Christ, et que nos corps seront à l'image du corps glorieux du Christ, ben, on devrait y ressembler un peu. Hein? Et puis, c'est avec sa puissance active que cela est possible, cette transformation des corps. Alors, je note, il aurait fallu que je creuse, que je fasse un parallèle avec la Genèse, bon, on va pas le faire, hein. Enfin, allez, je le fais. Nous sommes créés, Genèse chapitre 1, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et nous sommes ressuscités à l'image du corps glorieux du Christ. Du début à la fin, nous sommes des images de Dieu. Et si, par notre péché, nous avons défiguré l'image adamique, enfin l'image d'Adam, l'image reçue à la Genèse de notre création, eh bien, le Christ viendra restaurer cette image. Ouf, ouf. Hein. Et puis, ce que j'aimerais noter aussi, c'est que cette transformation, c'est ça que j'avais commencé à dire, se fait par la puissance de Jésus-Christ. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup croire en un Dieu tout-puissant. Peut-être qu'on fera un cycle de conférences sur la toute-puissance de Dieu, mais si Dieu n'est pas tout-puissant, comment va-t-il pouvoir nous redonner ces corps glorieux et spirituels? Ouais. Il faut quand même être drôlement puissant pour ressusciter quelqu'un. Il faut être drôlement puissant pour pardonner quelqu'un. Alors nous, on est un petit peu puissant parce qu'on essaie de pardonner un peu, on essaie de redonner vie à quelqu'un. Mais pour vraiment passer de la mort à la vie, il faut une puissance. Et Dieu seul peut faire ça. Donc je crois vraiment à la toute-puissance de Dieu. On continue un petit peu, mais on va arrêter avec les passages bibliques. On va faire un petit passage, cette fois, dans le catéchisme de l'Église catholique, pour voir si c'est un petit peu plus défini que Saint Paul. Est-ce que l'Église se mouillerait un peu plus pour nous dire comment ça se passe? Alors, c'est à la fois un peu décevant, puis c'est à la fois très intéressant. Je suis au numéro, c'est facile à retenir, c'est l'article 1000. L'article 1000 du catéchisme de l'Église catholique dit ceci. Comment ça se passe, la résurrection de la chair? Je cite. Ce comment dépasse notre imagination et notre entendement. Il n'est accessible que dans la foi. Mais notre participation. Je m'arrête là. Comment ça se passe? Eh bien, l'Église dit, mais en fait, donc catéchisme catholique, c'est contemporain, hein, c'est maintenant. Hein, c'est l'état de la vie de l'Église aujourd'hui. Comment ça va se passer, ça dépasse notre imagination et notre entendement. C'est-à-dire, on a beau essayer d'imaginer, j'ai essayé, hein, l'histoire du poisson, on essaie d'imaginer à quoi on va ressembler. En fait, ça dépasse. C'est-à-dire, en gros, continuez de chercher en sachant que vous ne trouverez pas. C'est un peu la définition du mystère. Le mystère, c'est tellement grand, le mystère de Dieu, de la Trinité, que ça vaut le coup de chercher, parce qu'on va percevoir des choses importantes. Mais de toute façon, il faut quand même savoir que tant qu'on est ici-bas, on ne trouvera pas. Voilà. On ne trouvera pas pleinement, totalement. Et le catéchisme, dans sa sagesse, ajoute ce comment il n'est accessible que dans la foi. Donc c'est impossible d'expliquer la résurrection de la chair à un non-croyant. Si on s'en tient à cette phrase-là. C'est vrai, quoi. En gros, la résurrection de la chair, soit tu y crois, soit tu y crois pas, mais t'expliquer, j'en sais rien, en fait. Voilà. Ça dépasse l'imagination et l'entendement. L'entendement, c'est l'intelligence. Hein. On n'est pas si bête ce soir, on a essayé de comprendre des choses. Hein, quand même. Et puis, quand même, pour faire une belle ouverture, le catéchisme continue, mais notre participation à l'Eucharistie nous donne déjà un avant-goût de la transfiguration de notre corps par le Christ. Alors, ils sont fidèles au texte de Philippiens, puisqu'ils disent que c'est le Christ qui transforme le corps. Ils ne disent pas transformation, ils disent transfiguration. Si on avait eu un quart d'heure de plus, je serais allé voir le texte de la transfiguration. Mais on a déjà un avant-goût dans l'Eucharistie. Alors, voilà ce que dit Saint Irénée. En fait, après le catéchisme, cite Saint Irénée. Moi, je fais une citation de citation, hein, accrochez-vous. Saint Irénée, donc Saint Irénée de Lyon, hein, celui qui a envoyé Ferréol et Ferjeux dans le coin. Il dit dans un livre qui s'appelle Adversus Hereses, un livre qui est vraiment très important, enfin, le Contre les hérésies, qui est écrit en latin, on a des manuscrits grecs. Voilà ce qu'il dit. On est au chapitre 4, et puis à strophe 18. De même que le pain qui vient de la terre après avoir reçu l'invocation de Dieu par de la messe, hein, n'est plus un pain ordinaire, mais l'Eucharistie. Après la consécration, les hosties, c'est plus du pain. Hein. C'est le corps du Christ, c'est l'Eucharistie. De même que le pain n'est plus du pain ordinaire, mais l'Eucharistie, constitué de deux choses, l'une terrestre et l'autre céleste. Parce qu'il y a quand même l'apparence du pain. Les hosties restent rondes, jaunes, friables, avec un peu de gluten, voilà. Ça, c'est l'aspect terrestre. Mais l'aspect céleste, c'est que cette hostie, c'est le corps du Christ. Donc, de même que le pain n'est plus du pain ordinaire, mais l'Eucharistie, constitué de deux choses, l'une terrestre, l'autre céleste, de même, nos corps, qui participent d'ailleurs à l'Eucharistie, ne sont plus corruptibles puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection. C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière qu'une hostie est consacrée, eh bien, nos corps deviendront incorruptibles et glorieux. Ça ne fait pas avancer les affaires, hein, ça ne dit pas comment on sera, mais ça nous explique, ça nous aide à comprendre un peu mieux cette résurrection de la chair. Je vais avancer, comme prévu cette fois. Alors, je vais vous épargner parce que j'en ai trouvé beaucoup trop. Je suis allé pointer aussi pour terminer sur comment ça marche, pour essayer de comprendre. J'ai essayé de pointer, parce que je ne peux pas me refaire, je suis désolé, dans la liturgie actuelle cette fois, comment on part de la résurrection de la chair. Est-ce qu'on a des indices? Donc, je suis allé lire les oraisons de la messe, les préfaces, voilà. J'en pointe quelques-unes. Accueille, nous t'en prions, Seigneur. C'est une prière sur les offrandes de l'octave de Pâques. Vous l'entendrez mercredi de l'octave de Pâques. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, le sacrifice qui rachète l'humanité, sacrifice de l'Eucharistie, et dans ta bienveillance, réalise en nous le salut de l'esprit et du corps. Donc c'est bien que le corps est sauvé. Une autre raison. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Là encore, ça ne vaut pas preuve. C'est juste pour vous dire que la liturgie célèbre ce qu'elle croit. Hein? On croit la résurrection de la chair, donc on le dit dans les prières. Encore, je continue. C'était toujours dans l'octave de Pâques, samedi. Ben, celle-là, elle revient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle vient 9 ou 10 fois dans le temps pascal, celle-là. Alors notre chair ressuscitera dans la gloire. Dans le temps pascal, on va l'entendre 10 fois. Encore une. Cette fois, c'était mardi dernier. Mardi de carême, après la communion. Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits. Que tes sacrements les renouvellent, nos esprits. Hein, fait que même nos corps trouve une aide pour aujourd'hui et pour la vie future. Dans l'Eucharistie, on trouve une aide pour nos corps aujourd'hui, mais aussi dans la vie future. Et les conséquences. Maintenant, pour terminer, mais ça fera la conclusion, je m'intéresse plus du tout à expliquer comment ça va se passer, parce que vous avez vu qu'on est limité dans les explications, mais qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui de croire en la résurrection de la chair? C'est le troisième et dernier point, ou la conclusion si vous préférez. Eh bien, j'ai plein de bonnes nouvelles. C'est plein de bonnes choses pour nous dès maintenant. Déjà, ici-bas, dans un premier temps, puis ensuite au ciel. Alors, les bonnes nouvelles pour ici-bas. La bonne nouvelle... c'est d'abord que notre corps a du prix. Ben oui, puisque si le Christ ressuscité est capable de montrer ses stigmates, c'est que notre corps, ben tout ce qu'il a connu ici-bas, sera comme un lieu de mémoire. Bon, là, c'est malheureux, c'est un lieu de mémoire de la passion, les stigmates. Hein? Mais il peut aussi être un lieu d'une belle mémoire. Tout ce que nous aurons connu de très corporel ici-bas, si ce sont des bonnes choses, eh bien, marquera notre vie éternelle. C'est un point d'attention, je ne peux pas développer, mais chacun le fera, à la nourriture, au rapport à notre corps en général, donc à la nourriture, au sport, au tatouage. Ne me demandez surtout pas si les gens tatoués, ils auront leur tatouage, j'en sais rien, mais voilà. À la sexualité. La sexualité, c'est le don du corps, hein, la relation sexuelle, pardon, c'est le don du corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce corps? Voilà. Donc, ça, c'est des questions pour aujourd'hui. Une autre question, c'est la crémation. L'Église a depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, et jusqu'à peu, dit que la crémation était interdite pour les chrétiens parce que, en fait, ça ne disait pas assez bien la résurrection de la chair. Aujourd'hui, c'est permis, mais l'Église dit... Bah, dans la mesure du possible, on fera autrement. Voilà. Donc, c'est possible, si c'est prévu, bah, on l'est prévu, mais en fait, quand on crématise le corps, on le fait disparaître, c'est plus dur après de croire en la résurrection de la chair. J'ai plus de facilité à croire que ce qui sera mangé par les bestioles au cimetière de Trivillers, là, dans 60 ans, allez, on y va. Ça, croire que ça ressuscite, ça, c'est déjà compliqué. Mais si en plus c'est réduit en cendres, ah, ça va vraiment encore moins m'aider. Donc pensez aussi à vos contemporains. Pensez à ceux qui viendront, ou justement qui ne viendront pas au cimetière mettre des fleurs sur votre corps s'il n'y en aura plus. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que l'Église disait bah, la crémation, moyen. Quoi. Puis en plus, c'est un peu, moi, je trouve que c'est un peu violent, mais ça, c'est, voilà. Pour moi, c'est plus dur de croire. Et puis, au niveau spirituel dès maintenant, eh ben, ça ruine cette horrible et triste de... croyance de la réincarnation. La réincarnation, c'est de croire qu'après la mort, on récupère un autre corps. Récupérer un corps, mais le nôtre. Merci, moi je suis déjà habitué, ça fait 46 ans, je ne change plus. Hein. Enfin, il est hors de question que je me retrouve ni dans un moustique, ni dans qui que ce soit. Enfin, moi je l'aime, mon corps c'est moi. Enfin, donc la réincarnation, c'est absolument incompatible avec la foi chrétienne. Si vous croyez en la réincarnation et que vous vous dites chrétien, allez vite en parler à votre curé. Enfin, pas ce soir, enfin, après 20 heures. Enfin, ou en tout cas, réfléchissez. C'est pas une incohérence flagrante. C'est pas possible. Je développe pas plus. Et puis, maintenant, les conséquences, c'est la conclusion vraiment finale cette fois, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions, mais en fait, je fais tout pour qu'il n'y en ait pas. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai. J'ai mal géré mon temps. J'ai noté quelques points. Quand même, quand nous serons au ciel, les bonnes nouvelles, ce qui va nous réjouir, c'est qu'il y a une place pour chacun. Ah, j'ai trouvé dans une collecte sur les funérailles, une prière d'ouverture de la messe des funérailles, cette prière-là. On dit à Dieu pour le défunt, accorde-lui une place auprès de toi dans l'assemblée de tous les saints, de tous ceux qui sont au ciel, hein, les saints. C'est-à-dire qu'on a une place. Entre parenthèses, on y est attendu. Notre place, c'est le ciel, hein. On n'a rien à faire ailleurs qu'au ciel après notre mort. Si on choisit de ne pas y aller, il y a un autre lieu. Voilà. Vous voyez les conférences de l'année dernière. On chantera. Je pense qu'on chantera juste. J'en sais rien. J'imagine. Ça dépasse l'imagination, donc on peut imaginer que je chanterai juste et que je saurais lire les notes. Voilà ce qu'on dit dans une autre prière sur les défunts aussi, la messe des défunts. Que le défunt, enfin on dit qu'il exulte à jamais avec tous les saints et chante ta gloire avec eux pour l'éternité. On chantera. Je ne sais pas comment, je sais pas quoi, c'est le chant des anges. Au début du Sanctus, à la messe, on le dira tout à l'heure. Et avec les saints et les anges, nous chantons. Ici-bas, on a déjà un avant-goût du ciel au Sanctus parce qu'on chante avec ceux qui ont les corps ressuscités là-haut. On est dans la même chorale. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait aussi le même texte puis pas trop changer de Sanctus. Ça, c'est pour les équipes liturgiques. La nourriture. Ah, alors ça, moi ça me réjouit. On a vu que le Christ mange du poisson grillé. Il y a des images du royaume, du banquet dans la liturgie, puis dans les textes bibliques. Hein. Le royaume des cieux, dit Jésus en Matthieu 22, je crois, est comparable à un banquet, le banquet du roi pour les noces de son fils. On compare le royaume, tout le long de la Bible, dès l'Ancien Testament, à un banquet. Voilà. Et bonne nouvelle, j'en sais rien, mais je serais très surpris qu'il y en ait qui soient encore allergiques à quoi que ce soit ou qui ne puissent pas manger du gluten. Pas plus de cholestérol, puisqu'on aura des corps forts et puissants. Ça j'y crois vraiment. Hein. Je ne sais pas qui fera manger, je ne sais pas, mais on mangera. Luc 14, 15, sur ce thème-là, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit, s'ils sont à table, Jésus, il est toujours à table, hein, c'est comme le signe, un signe. Hein. Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Ça doit vous dire quelque chose à la messe. Hein. Heureux les invités au repas, au royaume. Moi, je ne sais plus. Vous verrez tout à l'heure. Quand je ne suis pas dans la messe, je ne sais plus. Heureux les invités au repas là, de l'agneau. Enfin, je ne sais plus comme c'est. C'est l'Apocalypse et puis c'est Luc. C'est-à-dire qu'il y a un repas. On vous le dit à chaque messe. Enfin, voilà. Et puis, je termine avec encore deux points qui me réjouissent. C'est la vue. J'aurais pu commencer par ça. Ben, pour voir, il faut avoir un corps. Hein. Enfin, moi, je veux bien qu'une âme voie, mais bon, la vision béatifique et la vision de Dieu. Voilà. Dans les funérailles, toujours, on dit... Accorde à ton serviteur, donc le défunt, de se réjouir de voir sans cesse ton visage. Bon. Le corps spirituel sera capable de vision. Voilà. Bon, avec ou sans lunettes, je ne sais pas, c'est toujours pareil. Et puis enfin, il y a quelque chose que je n'avais jamais trop pointé, mais on aura aussi le souffle, la roua en hébreu. Hein, c'est le souffle qui est donné à toute chair. On rend le souffle à la mort. Hein, on remet le souffle, on rend le dernier souffle. Mais on le retrouvera, ce souffle. Voilà ce que dit la prière. Délivre ton serviteur, le défunt donc, nous t'en prions Seigneur, de tous les liens de ses fautes, puisqu'en ce monde, il a mérité d'être configuré au Christ par le baptême. Accorde-lui de ressusciter parmi les saints et de reprendre souffle dans la gloire de la résurrection. Merci de votre attention. J'ai pas réussi. Merci pour votre attention. J'ai pas réussi à aller jusqu'à 29, donc j'échappe pas aux questions. Alors, j'ai dit d'emblée que je ne répondrai pas ou pas trop bien, mais je veux bien essayer. Au moins, en les posant, on pourra réfléchir ensemble.
Il n'y a pas besoin de micro. Qu'à toi, Franck. L'hostie consacrée dans... ta logique, elle devrait être incorruptible, comme notre
oui,
corps.
Oui, c'est une très bonne question. L'hostie consacrée devrait être incorruptible. Mais sauf que, et le passage là me le dit bien, mais c'est facile à répondre, Saint Irénée dit bien qu'il y a les deux. Il y a les deux. J'ai bien dit que ça restait matériel. Voilà. Donc oui, mais il reste l'aspect matériel, ici-bas. Voilà. On a les deux, dit Saint-Irénée. Hein. Vous vous souvenez ? Je vais essayer de retrouver la citation tellement c'est beau. C'est pareil pour nous, du coup.
C'est parce qu'on est ici-bas.
Voilà. Il n'est plus un pain ordinaire constitué de deux choses, l'une terrestre et l'autre céleste. Et le terrestre, c'est toujours périssable. Donc, eh ben, puisque l'hostie est aussi à quelque chose de terrestre, elle reste périssable.
La logique, c'est que notre corps, puisque on est en plein dans le sujet là.
Oui.
C'est pas hors sujet.
Ah ben non, mais j'ai cité.
La résurrection de la chair.
Oui.
Au ciel.
Oui.
On aura
plus la partie terrestre.
Ben, on aura quand même le corps.
Oui, oui, mais c'est
notre chair sera ressuscitée.
Oui.
Comme l'hostie. Il y a la présence de Jésus.
Oui, mais c'est là qu'il y a une petite différence, c'est qu'au ciel, au ciel, on n'aura plus cette pesanteur terrestre. C'est pour ça que saint Paul dit incorruptible. Voilà. Mais effectivement, c'est une question intéressante. Il faudrait creuser, en fait, cette analogie, c'est ça, le type là, l'analogie de saint Irénée. Faut me laisser 2 heures là, je n'y arriverai pas. Mais je pourrais répondre beaucoup plus précisément, je pense, en bossant.
J'ai cru comprendre du coup que c'était quand même la foi qui nous faisait croire et que ça nous menait à la résurrection.
Oui.
Mais pour ceux qui n'ont pas la foi, parce qu'on a bien vu que Thomas, il avait du mal à y croire, il a la chance, lui, parce qu'il a Jésus.
Oui. Ouais.
Il est contemporain, mais nous, du coup, ceux qui ne croient pas, ils ont quand même la résurrection.
Alors, ça, c'est une question fondamentale, qui est vraiment très importante. Je regrette de ne pas l'avoir dit, mais heureusement que vous la posez. La résurrection n'est pas. Enfin, la puissance de résurrection de Dieu n'est pas conditionnée par la foi. C'est-à-dire que. Mais c'est général, ça. Dieu agit même pour des non-croyants. Donc, heureusement qu'on ressuscite même si on ne croit pas. Tous les corps ressuscitent. Voilà. Certains pour la vie éternelle, d'autres pour la damnation éternelle, dit saint Paul. Mais tous les corps ressusciteront, bien sûr, même si on n'y croit pas. Voilà. On peut ne pas croire en Dieu et être vivant. Alors que nous, on sait très bien que c'est Dieu qui donne la vie, donc tous les êtres vivants viennent de Dieu. Voilà. Mais Dieu a créé, même quand on ne croit pas, Dieu sauve même quand on ne croit pas, et Dieu fait des miracles chez les non-croyants. Voilà. Donc oui, bonne question. Ça va ? C'était ça la... Ouais, merci. Oh, Jean Bosco.
Pour moi, c'est un apport, c'est pas une question.
Ah, ouf.
Comme je suis le seul Africain parmi vous, alors...
C'est possible.
J'ai des parents qui ne sont pas du tout chrétiens. Et quand je vais leur dire au revoir parce que je viens en France, ben, ils ont leur façon à eux de me donner leur bénédiction. Et dans leur invocation, ils invoquent les mains des ancêtres sur moi.
Les mains ?
Les mains des ancêtres.
Les mains, oui.
C'est-à-dire l'esprit des défunts. Quelque part, ils ne sont pas chrétiens, mais ils croient à la vie après la mort. Voilà. Il n'y a pas la résurrection. Bon, il n'y a pas la notion de résurrection dans la religion traditionnelle africaine. Il n'y a pas la notion de purgatoire. Il n'y a pas la notion de l'enfer. Mais il y a la conviction qu'il y a l'au-delà. Il y a une vie après cette vie-là. Comment on y vit ? On ne sait pas, puisqu'on n'en revient pas, personne ne peut en donner une description. Mais l'Africain croit que les morts ne sont pas morts. Voilà. Mais ne leur parlez pas de résurrection de la chair. Là, ils sont perdus. Alors, c'est pour dire que pour nous, chrétiens, c'est la nouveauté que la religion chrétienne apporte aux Africains. Les Africains croient à la vie après cette vie. Et la nouveauté de l'évangile, c'est que notre corps, la chair là, elle aura part aussi à la résurrection. Donc voilà l'apport que je voulais. Donc,
merci, ma bonne. Merci beaucoup, Jean Bosco. Alors, est-ce qu'au ciel tu seras noir, pinou blanc? Mais je pense pour le coup, hein.
Ouais, je pense.
Je sais pas. On verra. On s'est donné rendez-vous, donc on verra. Peut-être la dernière question.
Je voulais savoir s'il y avait une différence ou si c'était la même résurrection de la chair immédiatement après la mort quand on est au ciel ou à la fin des temps.
Non, c'est pas la même. Ouais, je vais répondre comme je peux en peu de temps. Il faudrait reliser le catéchisme de l'Église catholique là autour des numéros 1000. On parle des fins dernières. Les fins dernières, c'est la mort, le jugement, l'enfer et le paradis. Voilà, c'est les questions d'eschatologie. L'Église, appuyant fermement sur les Écritures et puis sur la tradition des pères de l'Église et leurs commentaires, dit qu'en fait, il y a deux jugements. Dès qu'on meurt, on est jugé personnellement, puis après, il y a le jugement général. Mais là, on voit bien concrètement que les personnes qui sont mortes, les personnes qui sont mortes, leur corps, il est toujours séparé de leur âme. Donc l'âme est immortelle, elle est au ciel, voilà. Mais ils attendent la résurrection générale, ils attendent le jugement général et la fin des temps pour que cette résurrection de la chair ait lieu. Sauf qu'en fait, ils attendent rien du tout, parce que comme ils sont dans la vie éternelle dès maintenant, l'éternité, c'est l'inverse du temps. Enfin, c'est là où il n'y a plus de temps. Hein. Donc il n'y a plus de temps au ciel. Donc ceux qui sont morts il y a 1000 ans ou il y a une semaine, ils n'attendent pas la fin des temps. Ça va, pour eux, c'est succès, c'est en une demi-seconde, même pas. Enfin, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que pour nous, quand on mourra, ce sera tout de suite la fin des temps. On retrouvera immédiatement tous. On n'attendra pas, parce qu'il n'y a plus de temps. Et donc c'est là qu'il y aura la résurrection de la chair avec nos corps. Mais en attendant, pour l'instant, il n'y a pas. Ils sont ressuscités, mais ils n'ont pas encore la résurrection de la chair. Je ne sais pas si ça répond à la question. Moyen. On essaiera d'en reparler si on se recroise, ce qui doit être possible. On est obligé d'arrêter. Je dis juste une petite anecdote. Souvent, j'entends des gens qui disent « Oh, ben, le ciel, personne n'en est jamais revenu. » Ben, mince. Le Christ qui apparaît à ses apôtres. Donc, si, on sait quand même des choses. Voilà.